Radio Okapi. Le journal grâce à Mzati à la présentation.
Il n'y a pas de prospérité durable sans la paix. Propos du président de la République démocratique du Congo tenu ce jeudi à Bujumbura au Burundi au cours du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA. Félix Tshisekedi appelle ainsi à une collaboration régionale renforcée en vue d'imposer la stabilité et favoriser le développement dans la région. La première ministre de la RDC présente l'économie du projet du budget 2025 avoisinant les 17 milliards de dollars américains. Au cours du débat général sur ce projet hier à l'Assemblée nationale, les députés ont insisté sur le fait que ce budget 2025 devrait éliminer les injustices sociales concernant les rémunérations des agents de l'État. Le dossier complet à ce sujet à suivre tout à l'heure avec notre permanent au Parlement, Michel Kifindangaï. L'invité de ce journal est le coordonnateur provincial intérimaire du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, PDD-RCS à Nitouri. Flori Kitoko parle des avancées dans la mise en œuvre de ce programme ainsi que des défis à relever. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a participé hier à Bujumbura au Burundi au 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe. La réunion de Bujumbura accorde une attention particulière à l'accélération de l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme résilient au changement climatique. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements, des représentants du secteur privé, des petits commerçants, des décideurs politiques et de la société civile participent à ces sommets annuels. Suivez un extrait de l'intervention de Félix Tshisekedi proposé par Jude Mister Bilanda.
La paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ses provinces de l'Est, touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région.
Par ailleurs, le régime commercial simplifié RECOS lancé entre la RDC et le Burundi est une belle opportunité d'affaires à l'avantage des petits commerçants transfrontaliers. C'est la réaction à chaud de la Fédération des entreprises du Congo FEC, section d'Ouvira. Son président demande au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a représenté la partie RD congolaise, de veiller au respect des mesures d'encadrement pour éviter que les produits des pays autres que le Burundi ne soient embarqués dans le même lot de la gamme des 66 produits concernés par ces régimes commerciaux simplifiés. Ces produits exclusivement burundais ne seront pas soumis aux réglementations douanières avant de traverser en RDC via les postes frontaliers de Kavimvira, côté congolais, et de Gatumba au Burundi. On écoute le président de la FEC Ouvira Ville et Territoire, Zirenga Donato Jean, au micro de Jean Kassami.
On a dit uniquement les produits qui sont fabriqués au Burundi. Mais tu trouveras dans des camions, il y a des produits qui viennent de la Chine, de l'Inde, que ce n'est pas considéré. Les douaniers, c'est bien eux qui affectent. Au lieu qu'ils considèrent ce qu'on a dit, et ils vont profiter en sautant ailleurs. Ils mettent d'autres choses. On a bien énuméré les articles qui doivent subir les tarifications simplifiées. C'est bien énuméré les 66 articles. Et ce sont des articles qui sont produits au Burundi. La majorité, ce sont des denrées alimentaires, ce que moi j'ai remarqué, avec des mesures qui ont été prises pour créer des activités, pour créer des mouvements aux jeunes mamans et jeunes garçons, faire des activités en traversant au Burundi.
Comme dit dans les titres, la première ministre a présenté ce jeudi à l'Assemblée nationale l'économie du projet du budget 2025 qui avoisine les 17 milliards de dollars. Ce budget découle directement du programme d'action du gouvernement axé sur les 6 piliers matérialisant la vision du président de la République dans le but de booster le développement de la RDC, affirme la première ministre. D'après Judith Soumi-Natuluka, le budget 2025 accorde des allocations conséquentes au secteur d'investissement, des diversifications de l'économie ainsi qu'au secteur sociaux des bases. On l'écoute.
Ce projet de loi de finances renseigne les principaux faits saillants ci-après. Un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements, passant de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. De 16,4% des crédits alloués au secteur de l'agriculture, la pêche et l'élevage, 13,7% des crédits alloués au secteur de développement rural, la poursuite de la mise en œuvre des grands projets amorcés tels que le PDL 145 territoire, la construction du port en eau profonde de Banana, pour relier l'est à l'ouest du pays par la construction de la route nationale RN2 Mbujimayi Bukavu, des travaux de la modernisation et d'équipement des aéroports nationaux à Mbujimayi, Kavumu, Kolwezi, Kalemi, Moba, Buta, Kenge, Mbandaka, Kikwit, Bumba, Mwanda, Lodja, Gemena et Mukamba.
Après cette présentation de l'économie du budget, le président de l'Assemblée nationale salue l'accroissement de plus de 18% des crédits alloués au secteur des investissements. Selon Vital Kamerhe, le fait que le budget d'investissement dépasse en 2025 le cap de 48% démontre à suffisance que la gouvernance de la RDC va désormais vers un vrai changement. Pour lui, le budget étant une loi, ce changement ne peut être matérialisé que par son exécution fidèle, d'où la rigueur dans les suivis qu'en a imprimé l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe.
Quand nous faisons des projections, ça apporte beaucoup d'espoir au sein de la population et de ses représentants dans cette salle. Mais nous avons toujours failli à 3 niveaux. Au niveau de l'affectation qui respecte la loi des finances, au niveau de la matérialisation des projets déclarés, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans les budgets à la fin, ils voient qu'il y a des écoles qui ont été construites dans leur circonscription, mais qui sont des écoles tout simplement fictives, qui ne sont pas visibles. Ils apprennent qu'il y a des ponts qui ont été construits, signalés dans les rapports, mais ces ponts, on ne les voit pas. Donc, nous devons aider le gouvernement à respecter son budget en recourant à un suivi et une vérification trimestrielle, de façon à ce qu'on se retrouve plus dans des discussions de rédition de comptes de dépassement budgétaire catastrophique.
Ces extraits sonores ont été proposés par Michel Kifindangoy, notre permanent au Parlement. Et concernant les débats généraux sur ce projet du budget 2025, les députés nationaux saluent tout d'abord l'allocation des investissements massifs dans les secteurs porteurs de croissance. Cependant, ces députés, tant de la majorité que de l'opposition, invitent le gouvernement à prioriser les dépenses liées aux investissements, au social et à la relance de l'économie en lieu et place des dépenses institutionnelles. Pour eux, ce budget 2025 devrait éliminer les disparités et les injustices sociales, surtout en ce qui concerne les rémunérations des agents pris en charge par le Trésor public. N'est-ce pas, Michel Kifinda?
Prenant la parole en premier, le député de l'UDPS, Félix Mapamboli, attire l'attention du gouvernement sur les injustices sociales.
Le salaire moyen d'un agent qui travaille au ministère du budget est de 1000 dollars. À contre, moins de 100 dollars pour les agents qui sont au ministère de l'Intérieur. Les primes permettent parce qu'il y a une certaine équité entre tous les agents.
Allant dans le même sens, la députée Geneviève Inagossi plaide pour une affectation équitable des ressources à tous les 145 territoires du pays.
Nous sommes incapables de dire aujourd'hui, dans telle province, territoire, où se trouve le programme PDL 145 territoire, parce que les autorités locales n'ont pas été prises en compte.
Pour Augustin Matatampogno, seule la rigueur dans la gouvernance peut assurer une exécution fidèle du budget 2025.
Quel crédit peut-on donner à un budget si réellement plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors? Il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement.
Les députés Gratien Irachan invitent le gouvernement à renforcer le contrôle des régies financières car selon lui, plus de 80% des recettes échappent au trésor public.
Pendant ce temps, la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO rappelle au chef de l'État la nécessité de travailler pour l'amélioration de la situation du pays, notamment sur le plan socio-économique, sécuritaire et politique, afin de garantir la stabilité et le bien-être des Congolais. Allusion faite à un mémorandum signé par tous les évêques catholiques de la RDC au mois de juin dernier, adressé au président de la République et dont une copie est parvenue ce jeudi à Radio Okapi. Selon Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, ce mémorandum est publié aujourd'hui compte tenu de l'actualité marquée par la question de la révision ou du changement de la Constitution évoquée dans ces documents, remis en main propre de Félix Tshisekedi. Mgr Donatien Cholet revient ici sur la réaction du chef de l'État lors de sa rencontre avec les prélats catholiques à ce sujet.
Le président de la République était très ouvert. Il a reconnu l'objectivité de l'analyse de la situation faite par les évêques, en commentant même en disant qu'il faut ne pas être congolais pour reconnaître ce que vous dites. Donc c'était vraiment accueilli positivement, une belle ambiance de façon générale. Alors il a essayé de répondre à l'un ou l'autre point. Sur la question de la révision, il a dit, il pense que c'est nécessaire de réfléchir quand même, mais c'est pas quelque chose de pressant. Et encore que ce ne serait pas indiqué d'aller dans le sens d'un référendum pour consulter la population. Qui dit référendum dit élection. La situation sociale est telle qu'on a besoin de l'argent. Et puis, il est revenu sur le fait qu'il n'a pas l'intention de prolonger son mandat. Il est démocrate. Il va se référer à la Constitution. Maintenant, il y a une évolution qui semble un peu inquiétée par rapport à cette réaction-là. Et maintenant, nous estimons que c'est nécessaire d'étendre ce plaidoyer-là pour que ça ne se limite pas au niveau de chef de l'État, dans la mesure où le chef de l'État est conseillé par ses collaborateurs, alors qu'il risque aussi de l'induire en erreur.
Dans un autre chapitre, à Bunyani Touri, la forme d'épargne informelle, appelée ristourne, est très en vogue. De nombreux habitants, surtout ceux qui exercent le petit commerce ou les taximotos dans le centre-ville, affirment avoir déjà réalisé des grands projets grâce à ces systèmes d'épargne. D'autres, néanmoins, ont été déçus par cette pratique jugée peu rassurante pour garder l'argent. Voyons tout cela dans ce reportage signé Ezekiel Mouzalia.
À Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, des jeunes, femmes et adultes qui mènent nuit et jour une lutte quotidienne pour la survie recourent à la ristourne, cette sorte d'épargne collective dont la collecte journalière, hebdomadaire ou mensuelle est remise à l'un des membres. Ils disent préférer ce système plutôt que de placer leur argent dans des caisses d'épargne ou des crédits. C'est le cas de cette jeune femme, propriétaire d'une maison de téléphonie mobile qui, grâce à la ristourne, s'est procuré un lopin de terre.
La ristourne est importante pour moi. Je travaille dans un shop M-Pesa. Cet argent m'a aidé à ouvrir ma boutique, acheter une parcelle et je construis.
Cette ristourne s'est faite sur base d'affinités professionnelles ou familiales, ce qui n'exclut cependant pas des cas d'escroquerie. Nelson Kambale, qui est taximen dans la ville, dit avoir perdu une somme de $300 américains il y a quelques jours.
J'ai déjà perdu $300. C'est toujours bon quand on remet de l'argent à quelqu'un d'est sûr. Des fois, les gens qui se retirent du groupe constituent un échec.
Ces abus de confiance découragent la culture d'épargne chez certains habitants. Pour d'autres, la ristourne reste un des moyens les plus efficaces d'investissement.
Santé. Introduction hier à partir du territoire de Mbanzangungo, Congo central, du vaccin contre le paludisme en République démocratique du Congo. C'est le directeur du cabinet du ministre national de la Santé qui a lancé ce vaccin en présence de plusieurs personnes qui ont fait le déplacement de Mbanzangungo pour la circonstance, dont le vice-gouverneur du Congo central. Dans son adresse, Romain Louboyaï a indiqué que ce vaccin est le couronnement de nombreuses années de recherche. Des explications avec Nana Purich Mambo.
Ce vaccin introduit pour la première fois en RDC s'appelle R21 Matrix, fabriqué en Oxford en Angleterre. Selon les programmes élargis de vaccination, ce produit sera administré lors des consultations préscolaires et nécessite 4 doses, donc à 6, 7, 8 et 15 mois. Le gouvernement de la RDC attend baisser les cas d'hospitalisation et réduire les taux de décès dus à cette maladie. Pour le directeur des cabinets du ministre national de la Santé qui a lancé l'introduction de ces vaccins antipaludiques, ces produits représentent un espoir renouvelé pour les communautés vulnérables souffrant du paludisme. Romain Louboyaï.
Ce jour marque une étape significative dans l'histoire de la santé en République démocratique du Congo. Nous avons franchi une étape cruciale dans notre combat contre le paludisme. Je vous invite tous à soutenir cette initiative, à encourager la vaccination. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus touchés par le paludisme dans le monde. Le paludisme reste l'une des principales causes de décès en RDC.
Cet événement positionnant la RDC comme 15e pays africain après le Ghana a intégré les vaccins contre le paludisme dans les calendriers vaccinales. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, mi-octobre, un mouvement de grève de 3 jours lancé par des syndicats d'enseignants avait perturbé les cours dans plusieurs établissements scolaires publics à travers le pays. Ces débrayages, jugés illégaux par les autorités, a suscité une réaction stricte du gouvernement qui a annoncé mercredi des sanctions au terme du Conseil des ministres, dont la suspension des salaires des meneurs de cette grève.
L'invité.
175 ex-combattants sont pris en charge par le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire PDDRCS au site de Diango à 10 de kilomètres de Bunyanituri. Certains sont installés dans des communautés proches du site et d'autres munis de feux de route ont obtenu l'autorisation du bureau pour rejoindre leur famille. Le coordonnateur provincial intérimaire du PDDRCS à Ituri parle des avancées dans la mise en œuvre de ces programmes ainsi que les défis à relever. Flori Kitoko s'entretient avec Isaac Remoyope.
Flori Kitoko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Depuis avril 2022, certains miliciens ont intégré le site de Diango à 10 kilomètres de Bunia et d'autres s'y sont ajoutés progressivement. Comment évolue ce processus 2 ans après?
Le 17 avril 2022 était le lancement officiel du programme PDDRCS en Ituri dans le cadre de désarmement et la démobilisation. Et nous avons reçu quelques éléments du groupe armé Codeco, de Njougou, de FPIC, de Maïmaï qui sont venus de Opiengue, dans Tchopo, et de Maïmaï vers Mambasa, Biakatu. Après la sensibilisation, il y a eu nos amis autodéfense vers Kabarole et Tere. Jusqu'à ces jours, nous sommes à 175 démobilisés qui ont passé par Diango. Parce que tout le monde n'habite pas Diango. Il y a ceux-là qui ont choisi de rentrer dans la communauté parce qu'ils ont à faire les champs ou quoi. Actuellement, il y a plus ou moins 135 à 140 qui habitent encore le site de Diango.
Vous avez dit qu'il y a d'autres qui sont dans la communauté, ils s'estiment à combien? Parce que, comme vous venez de le dire, tous ne sont pas installés au site.
Exemple, ceux qui sont dans le groupement de Tere. Tere à quelques 4 kilomètres de Bunia. C'est là, quand ils ont des armées, ils ne sont pas allés au site de Diango. Parce que l'approche du programme, c'est l'approche purement communautaire. Il y a une 13 au moins qui sont dans la communauté de Tere, qui habitent là-bas. Une 10aine sont rentrés en Djougou. Ils ne sont pas rentrés pour aller dans le groupe armé. Ils ont demandé. Il a fait même des petites notes d'aller, que comme il fait des routes, il a demandé, ma femme est malade, les enfants doivent rentrer à l'école, et à la commune là-bas, ils rentrent, ils communiquent avec nous, ils envoient des photos pour dire, je vais bien, je fais mon champ. Et depuis qu'ils sont rentrés, il n'y a jamais eu des inquiétudes, des attaques ou des menaces dans la communauté.
Nous avons rencontré certains démobilisés sur place qui déplorent les mauvaises conditions de prise en charge, pas des vivres, des médicaments et d'eau. Donc, qu'est-ce qui est fait par le programme pour relever ces défis?
Je prends exemple de l'eau. Nous avons fait le forage d'eau. On a utilisé le système des panneaux solaires. Eux-mêmes, les jeunes gens, qui sont trop malhonnêtes, ils ont volé l'appareil qui donne l'eau. Il y a une rupture. Mais nous avons fait 2 forages. Et personne ne peut me dire aujourd'hui gardien où il y a pas l'eau. Et par rapport aux vivres, je ne peux pas refuser. Il y a un moment où nous manquons peut-être de moyens pour qu'ils ne puissent pas manger 3, 4 ou une semaine. Mais nous faisons toujours un effort. Parce qu'au départ, nous avions un partenaire qui donnait à manger pour un mois. Chaque mois, il nous donnait de nourriture. Actuellement, il y a un peu de difficulté. De temps en temps, ça peut manquer. Mais il ne peut pas vous dire qu'il n'y en a pas. Je ne peux pas rester 2 ans à Diango sans manger. Je crois qu'ils ne peuvent pas rester. Moi, en tant qu'ancien dans le programme, ils mangent encore mieux que les anciens programmes. Ils sont très bien logés. Ils ont les lits. Ils ont des couvertures. Ils ont des matelas. Ils ont des savons. Ils ont des draps de lit. Ils ont des kits civils où il y a des ketchs. Il faut être reconnaissant
à
ça.
Et par rapport à la prise en charge médicale, il y a une 20aine qui manifestent des symptômes. symptômes de maladie.
Côté de santé, c'est comme à manger. Il y a une dame infirmière qui est là, qui prend en charge les démobilisés. Même les symptômes qui s'est manifesté la semaine passée, un peu de diarrhée, 26 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 7. Ce n'est pas dit qu'on a laissé, il n'y a pas eu de mort depuis que l'épidémie est arrivée.
Ces démobilisés disent n'avoir pas encore bénéficié des formations professionnelles depuis 2 ans pour leur réinsertion dans la communauté. Qu'est-ce qui est à l'origine des blocages pour l'effectivité de ces programmes en Ituri?
Le programme PDDRCS prévoit, dès que les démobilisés viennent à notre charge, et au choix de démobiliser, il y a des questions qu'on leur pose. Quand tu veux rentrer à la communauté, qu'est-ce que tu vas aller faire? Il y a ceux qui ont souhaité faire la mécanique, ménagerie, couper, couture, coiffure, esthétique, élevage, mécanique, boulangerie, puis ménagerie. Ce programme, c'est prévu dans les programmes, selon la stratégie nationale.
Ça fait 2 ans.
Oui, ça fait 2 ans. Nous n'avons pas encore lancé la formation. C'est comme ça que nous avons dit, ok, comme ça a pris des retards, si nous pouvons prendre les démobilisés, de les faire partir, de les faire retourner dans la communauté. Comme le programme, sa base communautaire, il y aura maintenant des formations au sein de la communauté avec les appuis de nos partenaires. Ils vont attendre les projets et les formations au sein de la communauté. De placer les gens dans les sites de prise en charge, ça nous coûte énormément beaucoup d'argent. Mais c'était prévu, mais depuis 2 ans, on n'a pas organisé.
C'est un problème de financement.
Oui, c'est un problème toujours de l'argent.
Le coordinateur provincial intérimaire de PDDRCS en Ituri, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Notre invité, Flory Kitoko, était interrogé par Isaac Remoyope. Par ici s'achève ce journal coordonné par Jude Mystère Bilanda sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Mimi Kindou a assuré la mise en onde. Merci de l'avoir écouté.